France Culture.
Titouan Lamazou, bonjour.
Bonjour.
Après la mer, la terre, on va dire, puisque nous avons quitté dans le deuxième épisode, vous veniez de rentrer de mer, enfin de toutes vos courses de champion d'océan et de coureur d'océan, et vous avez mis pied à terre après l'échec de la goélette que vous aviez construite au large des côtes vénitiennes, ce qui a marqué la fin de la navigation. Pour ce troisième temps donc, on va parler des voyages terrestres que vous avez fait après, parce que de toute façon, vous êtes un peintre vagabond. D'ailleurs, le titre du livre d'entretien que vous avez fait avec Jean Doulazy en 2016 chez Gallimard avait pour titre « œuvre vagabonde » au pluriel. Nous allons donc reprendre ce fil-là. Mais ce qu'on a oublié hier de dire, peut-être pendant toutes ces navigations et cette période où vous étiez un coureur d'océan, c'est, on a oublié de parler de la peinture. Est-ce que pendant toutes ces années et de toutes ces courses, vous avez réussi à dessiner en mer ?
Dessiner en mer, non pas en course. Si je me souviens d'un projet pendant le Vendée Globe, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite chronique dessinée. Et j'avais pris du matériel, comme on est tout le temps sous l'eau, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'était des petits papiers en plastique avec des aquarelles. Je me disais, je vais faire un petit dessin tous les jours, un petit carnet de bord, et je m'étais amusé. Au début, c'était amusant, j'en ai fait deux, après ça m'a lassé. Je mettais mon pinceau sur la table à cartes, on savait qu'en posant le papier sur la table à cartes, c'est comme ces bateaux vibrent beaucoup, tapent, ça bouge tout le temps. Je laissais le bateau dessiner.
Oui, c'est ça, c'est le voilà. Pinceau qui suivait.
Donc
le bateau.
J'ai réalisé deux œuvres qui s'apparentaient un peu à du Pollock. C'était assez amusant, j'aurais pu en garder, si j'en avais fait chaque jour, j'en aurais eu 109, mais il y en a eu que deux.
Dommage.
Et voilà, au nombre de deux, ça manquait un petit peu d'intérêt.
Il aurait fallu faire une vraie série.
Voilà, donc en course, je peignais pas. En revanche, il y a beaucoup d'attentes dans le métier de navigateur, puisque le navigateur, en tout cas à cette époque-là, était chargé de trouver les financements pour son bateau, suivre la construction du bateau, soit le construire. Donc on passait beaucoup de temps à terre. Et chaque fois que je suis à terre, quelque part, je transforme la maison que je loue en atelier. Et j'ai réalisé un certain nombre d'œuvres pendant cette époque-là.
Autre question qui a trait à cette période, qui a été aussi une période, vous le disiez d'ailleurs dans l'épisode précédent, ultra médiatisée. Est-ce que le fait que vous ayez été ultra médiatisée à ce moment-là, est-ce que la notoriété qui s'en est suivie a été un obstacle ou un tremplin à votre carrière de peintre ?
Je parlerai pas de carrière de peintre parce que c'est quasiment congénital. Je répondrai les deux, mon général, parce que c'est vrai que quand j'ai sorti mon premier livre, en fait, c'était pas le premier, j'avais fait publier un certain nombre de livres avant, mais celui qui a eu le plus de retentissement, c'est le premier carnet de voyage. Et effectivement, je pense que il y a eu un accueil des médias, peut-être qui était plus soutenu parce que j'étais connu. Mais je pense qu'en revanche, dans le milieu de l'art, le fait d'avoir été champion du monde est plutôt un désavantage qu'un avantage. Voilà, qu'est-ce qu'il fout là, ce marin
On est marin ou peintre,
oui,
mais pas
voilà,
les deux.
Voilà, et surtout, en particulier en France, je pense qu'on est souvent rangé dans des cases. Je le comprends parce que je suis français moi aussi, et que je réagis souvent de la même façon.
Alors, vous citiez les carnets de voyage. On les a, et je dis « les » parce qu'il y en a deux, des carnets de voyage, sous les yeux. Carnet de voyage en deux tomes, de l'Égypte à la Russie, de Cuba à l'Indonésie, en passant par la Grèce, le Bénin, le Japon, Haïti, le Mali, la Colombie. Bon, je ne peux pas les citer tous, c'est presque un tour du monde. Quel a été le moteur de ces voyages
déjà ? Je ne sais pas s'il y en avait un vraiment. D'abord, le fait de recouvrer ma première vocation, qui a été interrompu de façon brève, mais
intense
par une petite ça qu'on pourrait appeler une carrière professionnelle de navigateur. Et quand vous disiez retour au voyage terrestre, non, c'était pas exactement terrestre, parce qu'il y avait certaines destinations où il y avait aussi où je me promenais d'île à bord d'un bateau.
C'est une facilité de langage.
C'était voyage terrestre, mais né au vent, quoi, voilà. Et sans but réellement précis, j'avais quand même en tête les trois premières pages de Triste Tropique de Lévi-Strauss, qui est un véritable, en trois pages, un véritable pamphlet antique, carnet de voyage, où il fait une critique. Il disait à l'époque, c'est très à la mode, à l'époque, à son époque, c'était très à la mode apparemment, et il critiquait l'effet que mettaient en avant les auteurs des carnets de voyage, qui flattaient un peu un lectorat amateur d'exotisme, disons, et l'effet primait sur le fond. Il détestait ça. Et je gardais ça en tête, et c'est vrai que j'avais un principe quand même, sans avoir un fil conducteur, je veillais à ce que je mette de côté des idées reçues et de me conformer un peu à ce que disait Nicolas Bouvier à une époque, le propre des grands voyages, et d'en ramener tout autre chose qu'on était allé y chercher. Et donc on a forcément des idées reçues sur les choses, et d'essayer de les mettre de côté et d'aller voir ces pays guidés par ma curiosité, certes, mais essayer de mettre tous les a priori de côté.
Curiosité et puis peut-être subjectivité, parce que assumer, parce que au cours de ces voyages, vous avez pris des notes, vous avez peint, notes et œuvres qui ont dressé, en tous les cas quand on regarde les carnets de voyage, c'est ce qui saute aux yeux, comme un état des lieux subjectif du monde.
J'allais quand même voir, à la fois, on peut dire que c'était des carnets de voyage dans des contrées, mais qui m'attiraient parce que je les connaissais pas et que j'avais envie de les voir de mes yeux, de les toucher de mes doigts. Et puis j'allais voir aussi mes contemporains et d'aller à la rencontre des gens qui n'est pas naturel chez moi parce que j'ai plutôt une nature timide et introvertie. Et le fait d'aller visiter des pays avec dans l'idée, je sais pas si ce qui primait c'était soit de la peinture ou le voyage, ou c'était les deux à la fois, mais en tout cas il fallait bien que j'aille rencontrer des gens si vous voulez dessiner des gens. Et donc j'allais vers mes contemporains en me faisant un petit peu violence, on peut dire.
Et discret, en vous faisant aussi discret parfois, comme si vous posiez une caméra dans un coin pour enregistrer le monde qui se déroule sous vos yeux. Il y a vraiment une dimension, je ne sais pas comment la qualifier, mais ethnographique ou documentaire dans votre travail. Je prends un exemple au Togo, c'est la même chose d'ailleurs au Bénin. On y voit beaucoup l'habitat, on y voit beaucoup les commerces. Vous représentez toute une rue, c'est magnifique d'ailleurs, plein de couleurs, mais toute une rue avec tous les commerces de cette rue. On voit aussi des transes au Bénin, je pense, dans les carnets de voyage. Et dans les heures vagabondes, elles sont reproduites aussi, des scènes collectives de vie, de rituels, de culture. Donc c'est comme si vous reproduisiez ce que vous voyez aussi.
Oui, et puis le dessin est une façon d'apprivoiser les gens qui étaient... D'ailleurs, ça a changé. Hein. Aujourd'hui, la photo, à une époque, un photographe était plutôt mal perçu dans beaucoup d'endroits, alors que le dessin est une chose très simple. N'importe qui peut dessiner. On prend un crayon, un bout de papier ou même un bout de carton et on fait un dessin. Et comme tous les... Et moi, je suis comme les autres, d'ailleurs. Je passe place du Tertre. Je suis curieux d'aller voir ce que fait le dessinateur qui fait un portrait, donc on est attiré, et c'est un petit peu partout dans le monde entier, et le fait de dessiner est un bon sésame pour aller à l'encontre des gens, et souvent, comme vous disiez, je dessine des lieux, des paysages, de l'habitat, parce que je commençais souvent par ça, parce que plutôt que d'aller directement voir des personnes, et leur demander de poser pour moi, par exemple, etc., je commençais par dessiner leur environnement, et ce qui suscitait leur curiosité.
Comme un moyen d'approche, en fait.
Voilà, c'est une stratégie, une tactique.
Mais dans ces deux carnets de voyage, qui regroupent donc tout ou partie hein, de ces voyages que vous avez faits, Titouan Lamazou, on voit aussi des photos, des textes. C'est pour ça que je disais que c'est une dimension ethnographique ou documentaire. Est-ce que vous les avez conçus comme des reportages vous-même ?
Je ne sais pas, mais on ne pourrait pas parler d'œuvres d'art ou de peinture ou d'œuvres artistiques à proprement parler. J'appelais ça quand même des enregistrements. C'est un petit peu comme si vous vous promenez vous-même avec votre nagra et que vous allez enregistrer des gens. C'est plus, ça s'apparente à de la chronique. Et j'avais l'impression de faire un travail d'enregistrement justement auprès des personnes, auprès des pays que je visitais. Et je préparais quand même un petit peu, même sans parler d'a priori, j'aimais, dans la plupart des temps, j'essayais de lire les auteurs de ces pays en question. Il m'est arrivé depuis toujours, d'ailleurs, je fais ça, puis je suis devenu une habitude, par exemple, à Moscou, je me rappelle ce qui m'avait marqué le plus, par exemple, c'était que j'avais recherché l'endroit où Bulgakov avait écrit Le Maître et Marguerite, et j'étais allé photographier et dessiner et lire Le Maître et Marguerite, d'ailleurs, au square du Patriarche, si je me souviens bien, où le héros Berlioz, si ma mémoire ne fait pas défaut, a rencontré le diable. Puis je suis allé dans la maison de Tolstoï pour aller me recueillir sur le bureau du maître. Et comme ça, dans beaucoup de pays, au Mali, à Bandiagara, j'étais allé à l'endroit où habitait Amadou Ampateba, dont j'avais lu les œuvres, l'Enfant Peul, etc. Donc voilà, dans beaucoup de pays, j'ai été guidé aussi par la littérature.
Il y a eu beaucoup de rencontres, hein, parce que vous disiez que vous approchiez des personnes que vous dessiniez ou que vous photographiez, peut-être par leur habitat d'abord, mais c'est vrai que ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est des rencontres alors avec toutes sortes de gens, des mécaniciens, des marins, des circassiens, des musiciens, je mets tout au féminin hein, aussi, des moines, des artistes, des écrivains. Alors, puisque vous étiez sur les écrivains, continuons, par exemple, en Égypte, le prix Nobel de littérature Naguib Mahfouz.
Oui, ça m'avait beaucoup marqué, la rencontre avec Naguib Mahfouz, dont j'avais lu la trilogie, la fameuse trilogie, c'était un homme admirable, et j'ai eu de la chance, il était très vieux déjà. Et ça m'avait beaucoup marqué, cette rencontre. J'avais rencontré un de vos confrères journalistes, qui était journaliste à El Aram, et qui venait voir une fois par semaine Naguib Mahfouz dans son appartement au bord du Nil, au Caire, et qui enregistrait une chronique sur les réflexions de Naguib Mahfouz sur l'actualité. Voilà. Et j'avais été très impressionné par ce vieux monsieur qui venait de subir un attentat, d'ailleurs, d'un individu qui avait voulu le punir pour sa grande tolérance. Et lui, il avait la réflexion qu'il avait fait à l'issue de cet attentat, auquel il avait réchappé. Il avait dit qu'il comprenait ces jeunes gens à qui la société refusait tout et qui, si, avec le vernis d'une cause noble, comme une cause religieuse par exemple, manifestaient leur colère, mais il les comprenait très bien. Donc c'est un homme vraiment de grande tolérance, effectivement.
En Colombie, ça a été l'écrivain Alvaro Mutis.
Oui, en Colombie, c'est l'écrivain Alvaro Mutis, mais que j'avais rencontré bien plus tôt. Là, on va revenir à l'épisode précédent. C'était une jolie histoire. Je vais revenir au temps où j'étais coureur d'océan, puisque au départ du Vendée Globe, figurez-vous, la plupart des gens qui nous connaissaient, nos familles, nos amis, voulaient nous faire un cadeau avant de partir, parce qu'on allait partir pendant des mois. Et la plupart du temps, ils nous offraient des bouquins. Et moi, j'avais, le jour du départ, je devais avoir une pile de bouquins, une vraie bibliothèque sur le quai, parce que j'en ai embarqué que deux bouquins. J'étais pas parti pour bouquiner, j'étais parti pour gagner la course, n'est-ce pas?
Vous l'avez bien expliqué.
Et j'avais choisi deux petits livres d'un auteur qui m'était parfaitement inconnu. Deux petits livres, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pages et que c'était écrit gros. Et c'était des livres d'un auteur colombien, donc que j'ignorais, qui s'appelle Alvaro Mutis, dont j'aimais beaucoup les titres d'ailleurs, c'était « Ilona vient avec la pluie » et « La croisière du tramp steamer ». Bon, il se trouve que, même si je m'étais appliqué à gagner la course, j'ai quand même lu 20 ou 30 fois chaque bouquin pendant toute la durée du
vous avez dit que vous n'aviez pas pris assez peut-être.
Du Vendée Globe. Et il se trouve qu'à l'arrivée, parce que j'avais publié quelques livres auparavant, et que Michel Lebris, qui organisait le Festival Étonnant Voyageur, c'était la première édition, il m'avait invité, parce que je venais de remporter le Vendée Globe, où là j'étais une notoriété toute soudaine, et il se trouve que l'invité principal du premier Festival d'Étonnant Voyageur était Alvaro Mutis, auteur très connu dans le monde hispanique. Si vous lisez Garcia Marquez, par exemple, le Cent ans de solitude est dédicacé à Mercedes et à Mercedes et Alvaro Mutis. Il se trouve qu'Alvaro Mutis avait incité ce jeune chroniqueur d'une petite feuille de chou de Carthagène, il avait trouvé que ce jeune journaliste avait beaucoup de talent, et c'était Garcia Marquez, il l'avait encouragé à écrire. Voilà. Et j'ai retrouvé, lorsque j'avais choisi de partir en Colombie, qui était un pays que je ne connaissais pas et qui attirait ma curiosité, j'étais passé voir Alvaro Mutis, que j'avais rencontré donc au festival Étonnant Voyageur. Il se trouve que dans l'œuvre de Mutis, il a un personnage un petit peu comme dans Corto Maltese pour Hugo Pratt. Il a un personnage qui s'appelle Macro El Gaviero et qui est un jeune marin. Et je lui ai raconté mon histoire, que je venais de gagner la grande course le Vendée Globe en lisant les aventures de Macro El Gaviero. Il avait déclaré que j'étais son lecteur préféré. il devait dire ça à tout le monde. Et il se trouve que Alvaro Mutis habitait à l'époque à Mexico. Il a été réfugié parce qu'il avait fui la dictature de Colombie à une époque. Et puis il était resté au Mexique. Et j'ai fait escale à Mexico pour aller le voir et pour qu'il m'introduise auprès de son jeune protégé qui était Garcia Marquez, qui habitait à Cartagène, là où je me rendais. Et donc voilà, j'ai fait escale à... Voilà, et j'ai conservé jusqu'à son décès des relations avec Alvaro Mutis. Et malheureusement, j'avais pu rencontrer effectivement Garcia Marquez à Cartagène, mais il sortait d'une chimio. Il n'était pas très disposé à ce que je réalise son portrait.
Bon, il y a des écrivains donc, mais aussi des artistes, beaucoup peintres. Je pense notamment à Sergine André, André Pierre, Jean-Gérard Merveille, qui est aussi sculpteur, à Haïti, ou votre rencontre que j'ai sous les yeux reproduite là avec Chéri Samba. Chéri Samba, chantre de la peinture populaire.
Oui.
Et j'aimerais bien que vous nous parliez de Chéri Samba, parce que c'est peut-être même en prenant ce que j'ai mis de côté sous les yeux, alors n'oubliez pas que nous sommes à la radio, qu'est-ce qui est représenté là, Tito Lamazou ?
C'était l'atelier de Chéri Samba il y a très longtemps, hein, c'était en 2000. J'avais fait un séjour très, très prolongé à Kinshasa, et qui est d'ailleurs une ville qui évoquait pour moi Haïti, où l'expression picturale est très importante. Et Chéri Samba était un chef de file de cette expression qu'on appelle la peinture populaire là-bas, et qui est une peinture figurative. Et il se trouve que l'atelier est assez amusant de Chéri Samba. Il en avait fait un club de vidéo porno. Et donc il n'invitait que ses amis, parce que c'était strictement interdit de regarder et d'avoir des cassettes porno à l'époque. Et donc il faisait un lieu d'attraction, et Chéri Samba a toujours été un petit peu provocateur dans sa peinture, militant, et le lieu lui ressemblait bien.
Et puis il y a des photographes aussi, et en particulier des photographes que vous avez vous-même dessinés, à côté d'ailleurs de photographies réalisées, dans un pays qui a occupé une place très importante pour vous, qui est le Mali. Et donc vous avez notamment peint Malick Sidibé et Seydou Keïta, qui étaient des grands photographes, très grands oui. photographes maliens. Je dois vous avouer que la série malienne, plusieurs peintures maliennes que vous avez réalisées sont parmi mes préférées, parce qu'il y a vraiment une histoire particulière oui. que vous avez avec le Mali.
Oui, je prends mon temps, je suis allé et revenu très souvent au Mali, et lors de mon premier voyage, j'ai eu le bonheur de rencontrer et Malick Sidibé et Seydou Keïta, qui sont décédés tous les deux aujourd'hui, mais qui sont considérés comme les plus grands photographes, enfin parmi les plus grands photographes du XXe siècle. Et j'avais une tendresse particulière pour le travail de Seydou Keïta, parce qu'il m'avait expliqué une chose, et il disait que ce qui était important dans son travail, c'était la satisfaction de son modèle. Et c'était une démarche que je m'appliquais à moi-même, c'est-à-dire quand je faisais des portraits de gens, notamment un peu plus tard les portraits de femmes, ce qui m'importait le plus, c'était pas le regard d'un public, ce qui me plaisait le plus, c'est que mon modèle soit satisfait de la manière dont j'avais retranscrit sa beauté intérieure, parce que la beauté des gens ne correspond pas forcément au canon de la beauté que vous avez en vous. Seydou Keïta m'a... J'allais quasiment quotidiennement, pendant un certain temps, dans ce qu'on appelle leur parcelle, Malick Sidibé et Seydou Keïta, pour vivre un petit peu avec eux. D'ailleurs, Seydou m'avait m'avait permis d'aborder. C'est comme ça un petit peu que je voyage, c'est-à-dire que c'est souvent quelqu'un qui me dit « Tiens, tu devrais aller voir un tel à tel endroit. » Et il m'avait présenté ça. Il avait épousé parmi, je crois qu'il avait plusieurs femmes, il avait épousé une Touareg et il m'a présenté sa famille Touareg de Tombouctou qui m'a permis d'être accueilli à Tombouctou d'une façon, d'avoir un point de chute là-bas et d'être recommandé par quelqu'un, ce qui est très important quand on arrive quelque part, d'avoir au moins un contact. Voilà. Et à Tombouctou, je suis revenu.
Vous êtes allé quelques mois en 1998, vous êtes retourné en 2013.
Voilà.
Entre-temps, l'islamisme avait fait ses ravages. Beaucoup de celles et ceux que vous aviez rencontrés, que vous aviez connus, des familles entières, étaient partis. C'est le cas notamment de la nièce de Sédou Kétat, Aïcha.
Il m'avait présenté lors de mon premier voyage, il m'avait dit, justement, ça serait bien, est-ce que tu pourrais me rendre service, tu veux aller à Tombouctou? J'ai ma nièce qui est ici, elle vient de divorcer. Et elle veut rentrer à Tombouctou, et si tu lui payes le billet d'avion, comme ça elle rentrera pas toute seule, c'est mieux qu'elle soit accompagnée, et comme ça elle te présentera sa famille là-bas. Bon, il se trouve que la nièce de Seydou Keita, c'était Miss Touareg, quoi. Elle était juste absolument magnifique, elle m'a présenté toute sa famille, j'avais quatre sœurs qui étaient aussi sublimes. Vous savez, j'avais passé beaucoup de temps à Tombouctou, cornaqué par cette famille, voilà, et j'avais gardé pendant très longtemps des relations à l'époque c'était des relations épistolaires, et puis petit à petit c'était des messages, c'était pas encore WhatsApp, mais enfin c'était ce genre là et à un moment donné j'ai plus eu de nouvelles du tout, et c'était en 2013 lorsque les islamistes ont occupé effectivement Tombouctou. Et c'est dans ces voyages suivants, et c'est comme ça que ça a évolué un petit peu mes voyages, si je partais au vent dans mes pérégrinations plus ancienne pour réaliser ces carnets de voyage. Après, j'étais un petit peu plus concerné par l'environnement politique. Voilà. J'ai prétexté le fait d'aller retrouver mes amis de Tombouctou dont je n'avais plus de nouvelles, essayer de les retrouver, savoir ce qu'ils étaient devenus, et ce qui a engendré un voyage de plusieurs années entre le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Mali, où toutes ces personnes s'étaient réfugiées.
Dans
des camps de réfugiés de l'UNHCR.
Vous les avez retrouvés?
Je les ai retrouvés quasiment tous, parce que tout le monde se connaît là-bas.
Et c'est ce qu'on voit dans Retour à Tombouctou,
paru
en 2015.
Voilà. Voilà, et qui était où j'avais eu, bon, c'était pas un voyage extrêmement facile parce que c'est un pays en guerre, où j'avais les plus grandes difficultés du monde, c'est pas les islamistes qui me dérangeaient le plus, c'était les administrations, dont l'administration française d'ailleurs, qui l'opération, c'était pas Barkhane, c'était l'opération qui précédait, où le colonel de Tombouctou a essayé de me mettre dans l'avion pour me renvoyer à Paris, mais j'ai tenu bon et je suis resté là-bas, voilà. Et j'ai pu retour à Tombouctou, c'est parce que j'ai retrouvé Aïcha, en fait, je l'ai retrouvé au Burkina Faso, dans des camps de réfugiés, puis son frère à Niamey, et d'autres en Mauritanie, dans d'autres camps de réfugiés.
Quelle était son histoire à Aïcha, depuis que vous l'aviez quittée?
Oh, Aïcha avait eu multiples enfants. Les femmes Touareg ont cette particularité qu'elles sont relativement libres dans le choix de leur... C'est une civilisation matrilinéaire, c'est-à-dire que c'est les femmes qui choisissent un petit peu, qui sont dépositaires des biens et des héritages de la famille. Et elle avait plus ou moins divorcé, j'imagine, plusieurs fois. Et c'était une fille qui avait beaucoup de succès, et pas qu'auprès des jeunes peintres occidentaux.
Vous l'avez retrouvée dans un camp de réfugiés?
Dans un camp de réfugiés, et parmi les siens, parce qu'ils avaient reconstitué des vrais petits villages de Tombouctou un peu partout dans le Sahel. Et ce qui m'a permis de sillonner cette zone dans un moment assez dur de cette époque, qui était d'ailleurs où on n'était pas tout à fait innocent, parce que en 2013, les islamistes ont ont provoqué l'intervention de la France pour essayer de les stopper. Ces islamistes avaient pillé toutes les armes de Kadhafi que nous avions nous-mêmes fait tomber. Et donc on était un petit peu responsable de ce qui se passait là-bas, quoi. Voilà.
Alors dans ces pays, en particulier autour du Sahel, titouan l'Amazou, vous avez assez rapidement mis au point votre méthode de travail, une méthode de travail qui va rester la vôtre, même si elle a évolué. C'est-à-dire que, comme les premières fois où vous êtes arrivé, vous ne connaissiez pas grand-chose du Sahel, vous disiez que vous partiez avec les livres d'auteurs autochtones, mais pas seulement, vous avez aussi rencontré des chercheurs spécialisés dans les sociétés du Sahel, du Sahara, pour comprendre les Touaregs, par exemple, avant de les photographier. Et ce travail, qui est à la fois, au final, artistique et journalistique, c'est ce qui va progressivement devenir le vôtre, même si, encore une fois, il va évoluer, puisque dans ces voyages humains, culturels, artistiques, plus ça avançait, plus vous vous êtes tourné vers une forme d'engagement, je dirais, qui a pris vraiment sa forme avec le projet Femme du Monde, qui sera notre sujet de l'épisode suivant.
Oui, on pourra parler de cet engagement dans cet épisode, effectivement. J'ai toujours eu, une empathie ou une sympathie congénitale pour le vivant en général et je faisais un travail qui était surtout universaliste dans ces carnets de voyage et petit à petit qui s'est affiné. Comme la première fois que j'ai abordé les îles de Polynésie, c'était en 77 avec Eric Tabarly, j'étais tout jeune. C'est pas que je regardais ou que j'admirais la carte postale, c'était un petit peu ça. Aujourd'hui, je n'aborde pas la Polynésie de la même façon. Et ça a été graduel dans mon travail artistique, qui effectivement, et dont la marque aujourd'hui, est le fait que je coopère avec des chercheurs, des anthropologues, des sociologues, des historiens, et toutes sortes de chercheurs avec qui nous faisons un travail en commun.
Bon, on continue demain, on va parler des femmes avec vous, puisque, je le disais, retour à Tombouctou et le travail que vous avez fait sur toute cette région, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, la Côte d'Ivoire, appartient à une catégorie, disons, d'œuvres plus engagées. Nous parlerons du monde au féminin dans l'épisode suivant. À suivre donc l'épisode 4, le monde au féminin. Merci Titouan Lamazou.
À demain.
À demain. C'était À Voix Nue avec Titouan Lamazou, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Benjamin Troncin et Benjamin Reyes, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.